Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Allons sans dire un mot, au sanglot d'un tango, nous consoler avec un Saint-Zano.
Dans certains cas, un geste suffit. Dans d'autres, il faut tout un cérémonial. La consolation est une pratique qui se situe à la limite de l'ordinaire et de l'exceptionnel. Pour les tristesses d'ordinaire, on s'en remet aux paroles apaisantes glanées au hasard dans le monde. Pour les deuils d'exception, il faudrait plutôt un dieu. Le besoin d'être consolé semble tellement universel que l'on fait feu de tout bois pour y répondre. Les Nouveaux Chemins, quant à eux, auront besoin d'être consolés le jour où ils ne seront plus composés de Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Lucie Tardy et Colomba Grossi, avec à la réalisation cette semaine Nicolas Berger, à la prise de son Clément Daté, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mosna-Savoie, bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Hommage au philosophe François Dagonier tout à l'heure, disparu ce dimanche à l'âge de 91 ans.
Sommes-nous inconsolables ? Hier, Claire Marin nous a rappelé l'impossibilité de se consoler de la douleur inhérente à l'existence, pour laquelle il n'y a pas de remède, ce qui peut être le début de la philosophie. Demain, Michel Guérin s'interrogera sur le rôle de l'art dans les textes de Nietzsche et de Schopenhauer. Et jeudi, Ludmila Charles Wurtz vous guidera dans les poèmes de Victor Hugo, l'inconsolable. Mais aujourd'hui, pour le deuxième temps de cette semaine sur la consolation, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui nous a donné sans le savoir l'idée de cette semaine, qui enseigne la philosophie à l'école polytechnique et dont le dernier livre paraît cette semaine au Seuil, le spécialiste de Kant, qui a écrit sur l'intime, la méchanceté et la fin du monde. Bonjour Michael Fassel.
Bonjour.
Je t'ai croisé un samedi soir. Et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter, tout en restant libre moi et libre toi. Car le roi de l'amour n'a plus besoin d'esclaves. Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit.
Michael Fessel, on n'écrit pas un livre sur la consolation sans une forme toujours de référence à son expérience, qui est difficile quand on est philosophe.
En effet, ce qui est difficile, c'est de traiter de ce qui vous est le plus intime et de le faire sur un mode qui ne soit pas nécessairement un mode littéraire, puisque moi, je n'ai pas choisi cette voie-là. Mais pour ce qui est de la consolation, j'ai pas eu véritablement de mal, non pas à l'écrire, ou surtout à me distinguer ou à distinguer ma propre expérience de ma réflexion, parce que c'est une notion qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, est balisée quand même. C'est une notion philosophique, même si elle qui a une histoire, même si aujourd'hui on a tendance à la penser surtout psychologiquement. Mais bien sûr, ce livre est parti, on pourrait dire, d'une expérience ou d'une expérience de pensée, qui est que je crois profondément que, à la fois d'ailleurs, les individus et et les collectivités sont constituées jusqu'à un certain point, non peut-être pas tant par leur tristesse, mais par leur perte, et que par conséquent, mon problème était de savoir, c'est un problème pour moi-même, mais je dirais pour tous, mon problème était de savoir que faire de ces tristesses ou de ces pertes qui nous constituent, pour ne pas, ni évidemment, si possible, s'y complaire, s'y enferrer, mais pour ne pas non plus, ce qui est peut-être une des tendances de nos sociétés actuelles, les considérer ou les faire passer plutôt par pertes et profits, hein, d'une manière quasiment économique. Au fond, ce livre, c'est aussi, ou cette réflexion, c'est aussi une réflexion contre le management de la tristesse, contre cette idée que le chagrin n'est qu'un mauvais moment à passer, qui nécessite des techniques, qui nécessite des discours, disons simplement entrepreneuriaux ou bien de productivité. Il me semble qu'il y a une positivité du chagrin, une positivité de la tristesse, même si, je le répète, ce sont des passions négatives, parce que s'attarder dans la tristesse, s'attarder dans la perte, c'est aussi une manière de définir ce que nous estimer être ou estimer devoir être vécu si l'on veut véritablement vivre une vie humaine.
À la différence d'Arthur Ashe qui chante « Adieu tristesse » à l'occasion d'une rencontre amoureuse qui semble le consoler de sa tristesse inhérente à sa propre existence, vous valorisez dans cet ouvrage la figure de l'inconsolé que vous distinguez de l'inconsolable, mais car, dites-vous, l'inconsolé est possède une fonction proprement critique. Comment on peut le comprendre, ça ?
Ben, disons qu'il y a trois, je fais évidemment, c'est une typologie un peu à la hache, mais je fais trois distinctions, enfin je distingue trois termes, l'inconsolé, l'inconsolable, effectivement, et le réconcilié ou le trop vite consolé. Bon. Et le trop vite réconcilié, c'est celui qui précisément considère qu'il n'a rien perdu ou alors qu'il se situe du point. Alors quand je veux dire il n'a rien perdu, je veux dire à la fois dans sa vie intime, amoureuse ou dans sa vie d'ailleurs sociale, celui qui n'a finalement qui entretient avec le monde social un rapport d'identité, de satisfaction. Bon, c'est-à-dire avec sa propre identité sociale ou sa propre réputation. Alors de ce point de vue-là, l'inconsolé, effectivement, est une figure critique, car c'est celui qui ne prend pas, je dirais, pour argent comptant les hiérarchies normatives présentes dans la société, à savoir ce que c'est que la réussite, ce que c'est qu'une vie réussie, ce que c'est qu'une vie amoureuse épanouie, ce que c'est qu'une vie professionnelle sans faille. Donc l'inconsolé n'est pas l'inconsolable, en revanche, effectivement, en ce sens que l'inconsolable ne veut rien d'autre que ce qu'il a perdu, quand je dis d'ailleurs que l'inconsolable ne veut rien d'autre que ce qu'il a perdu. Je pense surtout à des grandes figures littéraires et féminines de l'inconsolable, c'est-à-dire par exemple Antigone, Électre, c'est-à-dire qu'Électre ne veut rien d'autre que la vengeance par rapport à sa par rapport au crime que sa mère Clytemnestre a commis contre son père Agamemnon. Antigone ne veut rien d'autre. Elle est inconsolable au sens où elle ne veut rien d'autre que le fait de voir reçu pour son frère, que son frère, pardon, reçoive une dépouille digne de son rang, d'une certaine manière. Et n'ayant pas cela, c'est-à-dire voyant que la perte ne lui est pas concédée par la cité, eh bien ces deux figures, en tout cas très clairement Antigone, choisissent de rejoindre, ce sont des figures de la mélancolie de ce point de vue-là, vont rejoindre l'objet de la perte dans la mort. Donc l'inconsolable, qui est une figure à la fois sublime, orgueilleuse, puissante, est en même temps une figure, évidemment, pour le coup, là, profondément improductive, tandis que l'inconsolé, lui, bon, évidemment, ce sont des typologies toujours discutables, mais l'inconsolé réclame une consolation, c'est-à-dire qu'il est tout à la fois dans la conscience aiguë d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, que cette perte est une privation, c'est-à-dire qu'elle vaut comme un scandale, qu'elle n'est pas quelque chose qui soit simplement qu'on puisse simplement expliquer par des événements naturels, disons, mais ou surnaturels du reste, mais en même temps, c'est ça qui le distingue de l'inconsolable, je crois, l'inconsolé ne sait pas exactement ce qu'il a perdu. En sorte qu'il ne peut d'ailleurs pas exiger l'objet de la perte et rien d'autre. Bien sûr, on va dire, lorsque nous vivons une perte amoureuse, lorsque nous vivons la perte d'un proche, ou lorsque nous vivons encore une fois une perte sociale, de réputation, de profession, nous sommes capables de définir à peu près, approximativement, l'objet de cette perte. Mais je crois que, et on s'en rend compte presque d'un point de vue déjà psychologique, celui ou celle qui prétend connaître de manière absolument adéquate l'objet de cette perte, la nommer avec une certitude, s'enferme nécessairement dans la mélancolie, parce qu'évidemment, cela veut dire cette femme, cet homme, cette réputation, ce poste, même si on prend les choses de manière un peu plus anecdotique, et rien d'autre. Or, qu'est-ce que c'est que la consolation, ou plutôt qu'est-ce que c'est qu'une parole de consolation? C'est que c'est une parole qui affirme, parfois même un geste d'ailleurs, qu'il peut y avoir autre chose. Le consolateur, évidemment, ne va pas restituer l'objet de la perte. Il ne souffre pas de la perte de celui ou de l'affligé auquel il s'adresse. En revanche, il élabore des discours, il pratique des gestes, il essaie de montrer peut-être aussi des pans de l'expérience qui ne vont pas dénier la perte, qui ne vont pas dire « tu n'as rien perdu », le pire consolateur c'est celui qui dirait « tu n'as rien perdu » ou « un de perdu, 10 de retrouvé », mais qui va essayer de requalifier la perte pour montrer que cette perte peut être déjouée en offrant quelque chose à la place, et cette chose que l'on offre à la place, c'est un discours de consolation, un geste de consolation, bref, une présence de substitution par rapport à la perte vécue et subie.
Ce discours de consolation est aussi un art, vous le dites, hein, il y a un art, l'acte de consoler est un art qui implique un certain type de langage. On va écouter un type de discours de consolation tout de suite, et ce qui vous permettra sans doute d'insister sur la dimension que recrée la consolation dans une forme d'espace social. Écoutez.
Bonjour à tous. Notre service débutera dans quelques minutes. Avant cela, je passe la parole à Mathieu, qui souhaite dire quelques mots.
Gareth a toujours préféré les enterrements au mariage. Il disait qu'il lui semblait plus facile de s'enthousiasmer pour une cérémonie dans laquelle il était sûr de tenir un jour le premier rôle. Vous vous rappelez sa fabuleuse hospitalité, son approche expérimentale de la cuisine, sa recette du canard à la banane disparaît heureusement avec lui. Je voudrais que vous gardiez l'image de cette bonne humeur. Et non celle de cette boîte dans une église. J'ai peur que les mots me manquent. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'emprunter pour l'occasion ceux d'un autre merveilleux guignol. William H. Auden. C'est tout ce que je voudrais dire. Arrêtez les pendules. Coupez le téléphone. Empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne. Faire taire les pianos et sans roulement de tambour. Sortir le cercueil avant la fin du jour. Que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces trois mots. Il est mort. Nouer des voiles noires aux colonnes des édifices. Ganter de noir les mains des agents de police. Il était mon nord. Mon sud, mon est et mon ouest. Ma semaine de travail, mon dimanche de sieste. Mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson. Je croyais que l'amour jamais ne finirait. J'avais tort. Que les étoiles se retirent. Qu'on les balaye. Démonter la lune et le soleil. Vider l'océan, arracher la forêt. Car rien de bon ne peut advenir désormais.
Alors ce qui est paradoxal, Miguel Fessel, c'est qu'un discours de consolation, comme celui prononcé par le personnage du film « Quatre mariages, un enterrement », c'est interprété par John Hannah, qui récite ce poème de William H. Auden, « Funeral Blues », au moment de la cérémonie d'enterrement, pour créer un espace dans lequel proposer peut-être une forme de réconfort, c'est qu'un discours de consolation, celui-ci en particulier, peut faire pleurer.
Oui, de fait, il fait pleurer parce que il l'autorise aussi aux pleurs, et d'une certaine manière, c'est une manière aussi de légitimer précisément le chagrin, de lui conférer. Les larmes sont aussi un discours. C'est une forme de geste, mais généralement, c'est un discours précisément qui est employé lorsqu'il n'y a plus de mots. Qui vient. Là aussi, on est très proche de la consolation hein, quand on dit que les larmes consolent, parce que on a bien un langage, si l'on veut, du corps qui vient à la place de ce mot que l'on ne ne peut pas, ou de ces mots que l'on ne peut pas évoquer. Alors évidemment, dans l'extrait qu'on a écouté, les mots étaient ceux d'un poète. Et là, on voit aussi qu'il y a dans la poésie, la littérature sans doute plus généralement, le récit, je dirais, des puissances consolatrices. On est dans la scène que vous avez citée, devant le paradoxe d'un personnage qui se console lui-même, ou console plutôt même les autres, de son propre chagrin, puisque c'est lui qui a perdu son ami. Et il l'évoque en disant « il était mon midi, mon minuit, il était mon nord, mon sud, mon est et mon ouest ». C'est-à-dire que dans la consolation, il y a bien une évocation de l'être perdu, de l'être qui manque, mais une évocation, je dirais, métaphorique, au sens où le consolateur, même lorsqu'on se console soi-même, ou lorsqu'on console les autres de son propre chagrin, le consolateur ne se contente pas, évidemment, de définir l'objet perdu. Il le définit métaphoriquement, ou il le qualifie métaphoriquement, mon nord, mon sud, c'est-à-dire depuis le point de vue où cet être était tout, ou était en réalité le principe d'orientation de l'existence de l'endeuillé. Et on a presque là une figure, si vous voulez, dans cette très, 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 très jolie scène, une figure socratique, puisque Socrate, c'est celui qui va consoler ses propres disciples de sa propre mort, ou plus exactement de sa propre condamnation à mort, dans le Phédon, par exemple, où on voit que le premier geste de Socrate, c'est de renvoyer les femmes hors de la pièce. Bon, évidemment, il y a toute ici une différence de genre propre à la Grèce, mais l'argument, si je puis dire, de Socrate, c'est de dire que Xanthippe, sa femme, sombre, elle, dans les pleurs incohérents, ou qui ne sont pas des pleurs légitimes, parce qu'ils ne permettent pas l'usage du logos, mais qu'ensuite, par contre, Socrate va s'adresser à ses disciples sur le mode de la consolation, en partie au moins sur le mode de la consolation, c'est-à-dire tenter de montrer que sa mort n'est pas un mal, ou que sa mort n'est pas, même si elle est un scandale, elle n'est pas au sens strict un malheur, parce qu'il a, c'est les fameuses phrases du Phédon, philosopher c'est apprendre à mourir, autrement dit, ce qu'il va expérimenter en mourant, c'est la séparation entre l'âme et le corps, qu'il a toujours recherché en tant que philosophe, ou la libération de l'âme par rapport au corps. Donc ce que nous enseigne cet exemple, c'est qu'il est possible non seulement de consoler, il est possible de consoler de son propre chagrin ceux qui, d'une certaine manière, pourraient en être contaminés, et que cela passe toujours par un type de discours indirect, par un type de discours que j'ai qualifié dans le livre de métaphorique, c'est-à-dire où la perte n'apparaît plus comme un terme définitif, ou même si elle est définitive, elle n'apparaît pas comme indépassable, on la requalifie, c'est ce que fait le consolateur dans des scènes beaucoup moins, ou dans des situations plutôt beaucoup moins dramatiques que celles que j'ai indiquées. Par exemple, que fait une mère ou un père lorsque l'enfant tombe dans la rue, ou tombe tout court d'ailleurs, et a une crise de larmes? Eh bien, il ou elle le caresse, lui parle, lui raconte une histoire, bref, essaie de lui montrer par des gestes ou par des paroles que la vie ne s'arrête pas à sa chute, c'est-à-dire c'est vraiment un acte métaphorique au sens littéral, c'est-à-dire où on montre les choses comme étant ou comme ressemblant à autre chose. C'est-à-dire, par exemple, la chute va devenir l'objet d'un jeu, l'objet où elle va être qualifiée non plus comme souffrance, mais comme surprise, où elle permet en quelque sorte, où le discours permet en quelque sorte de à la fois de reconnaître qu'une perte a été vécue et qu'elle est douloureuse, et en même temps de la réinscrire dans le champ de la vie. Ce qui, évidemment, est une activité très difficile, et peut-être d'ailleurs devenue beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était hier.
Mais ce qui veut dire que la consolation, avant d'être une... vous parlez d'un processus, d'un acte, même d'une activité, disons, qui serait au service d'un but, consoler, est d'abord une manière, on parlait de la prise de parole, de non seulement de créer un espace qui va relier les individus entre eux, faire sortir de cette solitude propre au malheur, au chagrin, qui fait qu'on a besoin de consolation, mais aussi s'inscrit dans un héritage. Il y a comme une histoire des discours de consolation qui se rejoue en permanence, notamment au sein de la poésie et de la littérature.
Effectivement, consoler, c'est une manière d'être avec l'autre, et cette manière d'être avec, c'est-à-dire au fond la socialité humaine, elle a une histoire. Et de la même manière que la socialité humaine, c'est-à-dire le vivre ensemble, comme on le dit de manière un petit peu agaçante parfois aujourd'hui, a une histoire, eh bien, la tristesse, les chagrins ont une histoire. L'hypothèse qui est la mienne, c'est que on peut approcher les formes historiques du chagrin, les formes historiques de la tristesse en étudiant la manière dont précisément les hommes, les philosophes, les écrivains ont tenté d'y répondre sous la figure de la consolation. Et effectivement, consoler dans le monde antique, ce n'est pas la même chose que consoler dans la modernité. Parce que ce à quoi faisaient référence les philosophes, certains écrivains, dans l'Antiquité, je laisse pour l'instant de côté la religion, évidemment, ce sont des grands ordres métaphysiques. J'ai essayé d'en repérer trois, la nature, la communauté, le logos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire que finalement, celui qui console, il ne guérit pas la souffrance de celui qui est face à lui. Il guérit ce que Simmel, le sociologue, appelait la souffrance de la souffrance. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est le fait, non seulement de souffrir, mais d'avoir honte, ou de se sentir seul, isolé, ou de se sentir même coupable de souffrir. C'est donc ce qui est isolé dans la souffrance, ou solitaire dans la souffrance. Et pour répondre à la solitude de la souffrance, pour répondre à la souffrance de la souffrance, le consolateur antique, Sénèque, Boèce, déjà un peu Platon, vont faire référence au fond à quoi ? Eh bien à la conviction qu'on n'est jamais vraiment seul. Parce qu'on est membre d'une nature qui est plus grande que nous, et qui est providentielle, parce que l'on appartient à une communauté, la communauté humaine, ou même la communauté des sages, qui fait qu'il y a toujours une instance à laquelle s'adresser, la philosophie, et puis aussi parce que nous sommes membres d'un logos, d'un langage, qui, et la consolation c'est bien souvent un langage, surtout dans les lettres de consolation de la philosophie antique, c'est un discours qui nous permet précisément d'accéder à une vérité qui permet de relativiser le malheur dans lequel nous sommes. Alors ces trois grands ordres, peut-être on y reviendra, ces trois grands ordres de l'être avec, de l'être ensemble, que sont la nature, je suis un membre de la nature dont ma souffrance personnelle n'est qu'un élément, la communauté, je suis membre d'une cité, par exemple, ou d'une communauté des sages qui fait qu'il y a toujours un interlocuteur possible, même dans les moments les plus difficiles. Ou alors, le langage pensé, si vous voulez, comme logos, comme savoir, comme accès à la vérité et à l'être. Évidemment, ces trois ordres de la consolation antique ont été largement remis en cause dans la modernité.
Je t'ai remis en mémoire tes anciens malheurs, et afin que tu saches que cette nouvelle plaie doit se refermer elle aussi, je t'ai montré la cicatrice d'une blessure qui était tout aussi profonde. À d'autres donc les manières douces et les cajoleries. J'ai décidé pour ma part de livrer bataille à ton chagrin, et je contiendrai les larmes de tes yeux épuisés de fatigue, qui, à dire vrai, pleurent plus par habitude que par besoin. Je le ferai si possible avec ton concours. Sinon, j'irai à l'encontre de ta volonté, même si tu retiens et étreins ta douleur à laquelle tu as cédé la place laissée vide par ton fils. Quand en auras-tu fini? Une troisième année vient de s'écouler, et ton chagrin n'a rien perdu de sa prime virulence. Il reprend vie et vigueur chaque jour, et le temps l'a comme légitimé. Il en est arrivé à trouver honteux de cesser. Tous les défauts s'incrustent si on ne les étouffe pas dès leur apparition. De même, cet état de douloureuse mélancolie qui s'inflige les pires sévices finit par se nourrir de sa propre amertume, et la souffrance d'une âme malheureuse se mue en plaisir malsain. Voilà pourquoi j'aurais souhaité entreprendre ton traitement dès les premiers temps. Une médication plus douce aurait dû suffire à contenir une force encore naissante. Mais contre des maux bien enracinés, il faut combattre plus énergiquement.
Lorsque Sénèque adresse cette lettre à Marcia, qui a perdu son fils 3 ans plus tôt, il présente la philosophie comme un instrument de consolation, il parle de traitement, de médication. Il ne doute pas un instant que la philosophie puisse venir en aide à cette mère endeuillée. Ce qui a bien changé aujourd'hui, la conception que l'on se fait de la philosophie, quand on la présente comme consolatrice, c'est souvent un malentendu.
C'est un malentendu parce que ce que nous avons probablement perdu, ce n'est pas la croyance dans la vérité, quoi qu'on parle beaucoup de la modernité comme relativiste, je crois pas, mais on a perdu la croyance selon laquelle la vérité était ipso facto réconfortante ou une garantie de bonheur. On expliquera peut-être pourquoi, mais il faut pour le comprendre déjà dire pourquoi cette croyance en revanche était présente dans la philosophie antique, en particulier chez Sénèque. Et chez les stoïciens d'une manière générale.
On aurait pu citer Boèce également d'ailleurs.
On aurait pu citer Boèce dans la version néo-platonicienne de la consolation. Mais Sénèque, c'est intéressant parce que même dans le passage que vous avez fait lire, très, très, très bien d'ailleurs, ce passage montre qu'il y a toute une série de techniques consolatrices dans le stoïcisme et il en évoquait deux en particulier qui me paraissent très importantes et sur lesquelles on peut bien voir en quoi elles ne sont plus forcément aujourd'hui aussi efficaces. Première première technique pour se prémunir du malheur, ce qu'ils appelaient la préméditation du malheur, c'est-à-dire d'une certaine manière anticiper sur la catastrophe, la mort d'un proche, sa propre mort, son exil. Bon, Sénèque était lui-même console dans une autre lettre sa mère de sa propre mise en exil par Néron. Et la préméditation du malheur, ça vient de cette idée que pour les stoïciens, l'avenir de toutes les manières est absolument hors de notre maîtrise et que par conséquent, si l'on veut par avance d'une certaine manière se consoler de ce qui nous arrivera, il faut faire comme si le pire était d'ores et déjà arrivé. Et donc il y a une espèce de catastrophisme éthique, si vous voulez, qui fait que il s'agit de se rendre insensible à la fortune. Et puis alors le deuxième exemple,
la fortune, c'est-à-dire ce qui nous arrive, le hasard.
Voilà, le hasard, ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. Et qu'est-ce qui dépend de nous pour les stoïciens? Fondamentalement, pas les choses qui sont régies précisément par la fortune, le destin, qu'il soit hasardeux ou qu'il soit providentiel. En tout cas, nous n'y sommes pour rien. En revanche, ce qui dépend de nous, ce sont nos représentations, c'est-à-dire les jugements que nous formons sur ce que nous vivons ou avons vécu. Et là, on va voir, à mon sens, la grande rupture avec la modernité. La deuxième manière, parce qu'évidemment, la consolation, il faut le noter, ça vient toujours trop tard. Ça vient quand le mal a eu lieu. Bon. Et donc, lorsque le sujet n'a pas assez prémédité le malheur, ne s'est pas assez préparé, d'une certaine manière, il y a toujours dans le discours stoïcien, plus ou moins, non pas, je dirais, une critique, mais enfin, néanmoins, un petit regret de devoir arriver, en quelque sorte, trop tard pour par rapport à ce que une morale saine stoïcienne aurait, ce dont une morale saine stoïcienne, pardon, aurait dû nous protéger. Alors, deuxième technique, ça consiste à dire à se fonder plutôt sur la mémoire. C'est un exercice de la mémoire. C'est-à-dire que celui qui souffre, d'une manière ou d'une autre, souffre toujours d'une perte. Perte d'un amour, perte d'une espérance de vie, perte d'un idéal, perte d'un être proche. Et la technique, si je puis dire stoïcienne, c'est de se fonder non pas sur ce que nous avons perdu, ce qui est absent, car ça c'est la garantie de la souffrance, du manque, de la privation, mais sur le souvenir, c'est-à-dire, et c'est ce que dit par exemple Sénèque à Marcia, souviens-toi des jours heureux que tu as passés avec ton fils, de ses vertus, de sa grandeur, de sa beauté aussi. Pourquoi ? Parce que le souvenir, lui, t'appartient, tu ne peux pas en être dépossédé. On peut souverainement se promener dans sa mémoire, parce que sa mémoire, dans l'optique stoïcienne, plus généralement antique d'ailleurs, la mémoire, c'est la réminiscence, c'est un pouvoir de l'âme, et ce pouvoir, c'est celui de quoi ? De rendre présent l'absent. Et rendre présent l'absent, c'est précisément consoler. C'est-à-dire que celui qui manque, s'il s'agit d'un être humain, celui qui manque est d'une certaine manière présentifié, pardon de ce mot un peu barbare, par l'activité de la mémoire. Et alors là, on peut, si vous voulez, peut-être faire une petite digression pour voir si nous avons, nous modernes, encore autant confiance dans notre mémoire, sans aller même jusqu'à la psychanalyse, qui fera des souvenirs, les souvenirs écrans, ou qui parlera de souvenirs écrans, qui, même sans aller, ou sans attendre plutôt Freud, la mémoire devient l'objet d'un doute. C'est le cas de le dire d'ailleurs, dans la modernité, pour une raison qu'on peut expliquer très simplement. C'est que la modernité, la philosophie moderne, c'est pourquoi d'ailleurs elle n'est plus consolatrice au sens strict, elle prend tout de même son modèle dans les sciences. Pensons à Descartes, par exemple. C'est-à-dire dans l'idée que la causalité mécanique, bon, pour commencer avec Descartes, régit l'intégralité du temps. Mais si la causalité régit les expériences temporelles, alors le présent s'explique par le passé, ou est expliqué par le passé. La vérité du présent se trouve dans le passé. Et si la vérité du présent se trouve dans le passé, et que mon présent est un présent de désolation, de malheur, de chagrin amoureux, par exemple, alors cela veut dire que le souvenir va devenir aussi maléfique que bénéfique, parce que le sujet amoureux délaissé, abandonné d'une certaine manière, va être tenté de voir dans son propre passé, amoureux précisément, des signes avant-coureurs, annonciateurs de la rupture qui a eu lieu. Autrement dit, l'idée stoïcienne reposait sur le fait que le passé m'appartenait et qu'il était dissocié du présent. Que le présent pouvait être malheureux et que le passé réconfortait du présent. Mais l'idée moderne, activée, je dirais, par la causalité, par la science, par le désir d'expliquer, de connaître, le désir de connaître peut devenir maléfique du point de vue du malheur, parce que connaître les raisons pour lesquelles l'être aimé m'a abandonné, c'est en même temps relire le passé, réinterpréter le passé à la lumière obscure, si je puis dire, du présent. Et donc, cela rend d'autant plus difficile, et on le voit même, je dirais, de manière psychologique, cela rend d'autant plus difficile de prémunir, d'immuniser plutôt le passé heureux, les beaux jours, les jours heureux, par rapport au présent dévasté.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h32, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à la consolation. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Michael Fessel qui fait paraître cette semaine aux éditions du Seuil son dernier livre intitulé « Le temps de la consolation ».
Sous le pont, l'eau était devenue toute lourde. J'avais plus du tout envie d'avancer. Au boulevard, j'ai bu un café crème et j'ai ouvert ce bouquin qu'elle m'avait vendu. En l'ouvrant, je suis juste tombé sur une page d'une lettre qu'il écrivait à sa femme, le Montaigne, justement pour l'occasion d'un fils à eux qui venait de mourir. Ça m'intéressait immédiatement, ce passage, probablement à cause des rapports que je faisais tout de suite avec Bébert. « Ah !» qu'il lui disait, le Montaigne, à peu près comme ça, à son épouse. « T'en fais pas, va, ma chère femme, il faut bien te consoler, ça s'arrangera, tout s'arrange dans la vie, et puis d'ailleurs, » qu'il lui disait encore, j'ai justement retrouvé hier dans des vieux papiers d'un ami à moi une certaine lettre que Plutarque envoyait lui aussi à sa femme dans des circonstances tout à fait pareilles aux nôtres. Et que je l'ai trouvé si joliment bien tapée, sa lettre, ma chère femme, que je te l'envoie, sa lettre. C'est une belle lettre. D'ailleurs, je ne veux pas t'en priver plus longtemps. Tu m'en diras des nouvelles pour ce qui est de guérir ton chagrin. Ma chère épouse, je te l'envoie, la belle lettre. Elle est un peu là comme lettre, celle de Plutarque. On peut le dire, elle n'a pas fini de t'intéresser. Ah non ? Prenez-en connaissance, ma chère femme, lisez-la bien, montrez-la aux amis, relisez-la encore. Je suis bien tranquille à présent, je suis certain qu'elle va vous remettre d'aplomb. Votre bon mari, Michel. Voilà que je me dis, moi, ce qu'on peut appeler du beau travail. Sa femme devait être fière d'avoir un bon mari qui s'en fasse pas comme son Michel. Enfin, c'était leur affaire à ces gens. On se trompe peut-être toujours quand il s'agit de juger le cœur des autres. Peut-être qu'ils avaient vraiment du chagrin. Du chagrin de l'époque.
Michael Fessel, on va revenir sur la rupture entre la philosophie antique et la philosophie moderne autour de ce thème de la consolation, pour bien montrer dans quel sens la philosophie moderne ne serait plus apte à consoler, parce que c'est quand même décisif sur la conception que l'on se fait de la philosophie aujourd'hui et sur notre époque, qui ne serait peut-être plus apte à produire des discours philosophiques consolatoires. Mais ce texte de Céline que l'on vient d'entendre, interprété par Denis Podalydès, est emblématique de cette rupture dans le registre littéraire, puisque ce que l'on entend ici, c'est le narrateur Bardamu qui tombe par hasard sur ce passage de Montaigne, lui-même citant Plutarque, est une forme de parodie du discours consolatoire qui est pour Céline la meilleure façon de prendre acte de ce chagrin propre à l'époque, dit-il.
Bah, d'une certaine manière, ce passage, il explique pourquoi, en partie, enfin en tout cas il illustre en partie pourquoi dans la modernité, c'est pas seulement d'ailleurs la philosophie, dans la modernité, il est devenu plus difficile de consoler. Parce que Bardamu vient d'apprendre que le jeune Bébert, auquel il est très attaché, ne pourra pas être guéri. Il sort de l'institut médical, découvrant que cette maladie est totalement inguérissable, incurable, et il hésite à rentrer, de voir annoncer cela, effectivement, à Bébert et puis à sa mère d'ailleurs, et il tombe par hasard effectivement sur les quais de Seine, sur un passage de Montaigne, et on l'a entendu. Ce passage est un passage qui ne délivre aucune parole de consolation, et qui au contraire renvoie alors à Plutarque, c'est-à-dire justement au temps où la philosophie prétendait consoler. Mais on pourrait donc penser que Céline est simplement dans une attitude, je dirais, sarcastique,
parodique
par rapport à Montaigne. On peut le penser jusqu'à ce qu'on retrouve, ce qui est faisable, le texte originaire de Montaigne, si je vais en lire deux lignes, c'est-à-dire qu'effectivement, Montaigne perd sa fille, et sa femme donc par conséquent perd aussi sa fille, et Montaigne envoie à sa femme un livre de Plutarque qu'il dédicace, et où il écrit: mais je laisse à Plutarque la charge de vous consoler et de vous advertir de votre devoir en cela, vous priant le croire pour l'amour de moi, car il vous découvrira mes intentions et ce qui se peut alléguer en cela beaucoup mieux que je ne ferai moi-même. Sur ce, ma femme, je me recommande bien fort à votre bonne grâce, prie Dieu pour qu'il vous maintienne en sa garde. Alors évidemment, le style est très différent de la paraphrase, ou plutôt de la satire qu'en fait en partie Céline, mais ce qui est frappant, Montaigne est un moderne, ce qui est frappant, c'est que Montaigne ne cite pas plus la passage de Plutarque qui est censé consoler sa femme. Or, il est tout à fait exclu qu'il soit ironique, lui. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que Montaigne espère que sa femme va trouver dans le livre de Plutarque qu'elle envoie un passage, qui est un livre de consolation, un passage qui va lui permettre de trouver un réconfort par la raison, par le savoir, une explication ou du moins une réflexion qui inscrira sa souffrance ou le malheur de la mère qui a perdu son enfant dans un ordre. Mais il en doute. Lui-même, il est sceptique, Montaigne. C'est-à-dire que la modernité se caractérise, qu'on le veuille ou non, par l'affaiblissement de ces ordres qui ont toujours consolé, je dirais, dans la philosophie antique, consolé parce que, je répète, convaincu les hommes qu'ils n'étaient pas seuls, que sont la nature, la providence ou la communauté. Eh bien, on peut dire que Céline, d'une certaine manière, vit comme désespérant, hein, ce dont Montaigne déjà doutait, à savoir qu'il existe une parole, un savoir, une vérité qui soit en mesure, par exemple, sur l'immortalité de l'âme. Typiquement, si on arrive à démontrer l'immortalité de l'âme, on peut penser que cette démonstration aura un effet sur la peur de ou sur l'angoisse de mort. Bon. Mais déjà, Montaigne, évidemment, est très dubitatif sur ce type de savoir métaphysique. Et Céline, même sur un mode, bon, on peut pas d'ailleurs dire humoristique, mais sarcastique, d'une certaine manière, transforme ce doute en désespoir. Il dit même, je crois, à un moment un peu plus loin, il n'y a vraiment rien dans Montaigne, a fortiori dans Plutarque, pour ce pauvre Bébert. Mais, et c'est à la toute fin du texte qui a été lu, cela ne veut pas dire d'être inconsolé dans mon vocabulaire, c'est-à-dire de ne pas disposer d'un savoir qui nous réconcilie avec la souffrance. Être inconsolé n'implique pas d'être inconsolable ou désespéré, je dirais, parce qu'il y a tout de même cette phrase magnifique « Peut-être avait-il tout de même du chagrin de l'époque », dit Céline, c'est-à-dire qu'il y aurait comme une solidarité des ébranlés, comme une solidarité de ceux qui précisément, c'est ça la solidarité des modernes, s'il doit y en avoir une, elle ne se trouve pas dans une nouvelle communauté ou une nouvelle nature identitaire que l'on essaie par ailleurs de nous refourguer, pardon cette expression, sur tous les modes aujourd'hui. S'il y a une solidarité possible dans la modernité, elle se fait ou elle se fonde sur l'aveu d'une ignorance, ou en tout cas d'une inscience, pardon de ce mot, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que notre douleur, ou si notre douleur, ou notre souffrance, ou notre perte prend sens dans un ordre supérieur. Mais ce non-savoir, pensons par exemple très concrètement à celui qui essaie de consoler un mourant, ce non-savoir sur ce qu'est la mort, ce non-savoir même sur ce qui fait alternative entre la vie et la mort, ce non-savoir peut devenir l'instrument d'une consolation par l'aveu précisément de notre finitude commune face à la perte. Je me méfie beaucoup de ceux qui convoque des savoirs extrêmement dogmatiques, à savoir tout est perdu et tant pis, au fond, ça c'est le discours du deuil obligatoire, ou à l'inverse, le discours mélancolique, ce qui est perdu était la seule chose qui méritait d'être entreprise, et au fond, il s'agit simplement de se vouer à la déploration.
Mais alors, qu'est-ce qui a changé au sein même de la raison philosophique pour qu'on puisse en faire un symptôme propre à l'époque moderne? Parce que quand même, est-ce que ça veut dire que l'ordre dans lequel les stoïciens pouvaient réinscrire l'homme et en cela leur apporter une consolation n'existe plus? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la croyance en cet ordre qui s'est dissipée ou qui a été récupérée par la religion, par exemple, auquel cas ça veut dire que c'est l'histoire même de la philosophie qui serait responsable de notre statut d'inconsolé, voire d'inconsolable aujourd'hui.
L'histoire de la philosophie ne me semble pas être responsable, mais elle me semble la traduire, ce statut d'inconsolé. Effectivement, vous avez très justement cité l'abandon à la religion du geste de consoler, qui est un fait historique et philosophique à la fois. Je veux dire par là que, prenez Descartes, il ne cesse de dire que pour tout ce qui relève de l'immortalité de l'âme, par exemple, dont il promet qu'il va la démontrer, il ne la démontre jamais, il abandonne ça, cette question-là, à la religion. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ambition de la philosophie moderne, initialement du moins, ce n'est pas de consoler, c'est de guérir. Et par exemple, même chez Descartes, vous avez le projet, auquel il renoncera d'ailleurs, mais vous avez tout de même le projet au départ, de nous rendre quasiment immortels. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette idée que plutôt que de guérir, il faut prévenir, ou plutôt que de consoler, plutôt, il faut prévenir, c'est-à-dire trouver des moyens techniques, des moyens scientifiques, des moyens éventuellement d'ailleurs politiques aussi bien, d'empêcher la catastrophe ou d'empêcher que le malheur n'advienne. Donc au départ, le fait de renoncer à consoler ne provient pas de la part de la philosophie d'une humilité moderne, la philosophie moderne d'une humilité, mais au contraire d'une nouvelle ambition, qui est l'ambition précisément d'apporter aux hommes, sous la figure de la science, sous la figure de la politique, une libération, une émancipation totale.
De leur propre finitude, c'est ça en réalité.
De leur propre finitude et de leur besoin de consolation. Si vous pensez par exemple à la fameuse image par laquelle Marx dénonce l'idéologie religieuse, ou ce qu'il tient pour idéologie religieuse, c'est-à-dire que la religion c'est l'opium du peuple. Si la religion c'est l'opium du peuple, il le dit d'ailleurs en toutes lettres, c'est que précisément elle vise à consoler les hommes des inégalités sociales, mais en les perpétuant, c'est-à-dire qu'en renvoyant à un autre monde, à un au-delà, la justice qui n'a pas lieu sur Terre. De ce point de vue-là, c'est pas seulement que la philosophie moderne ne console plus, c'est qu'elle est critique à l'égard de la consolation, au sens où la consolation est interprétée comme un pis-aller ou comme une idéologie. Alors ce que j'ai voulu essayer de montrer dans le livre, c'est qu'il y avait une autre manière de lire la modernité, je dirais, que par ce rejet de la consolation, parce que il me semble qu'en fait on fait une confusion entre eux. Certains philosophes ont une confusion entre consolation et réconciliation. S'il est vrai que la philosophie n'a pas à nous réconcilier avec le réel, c'est ce qui était le projet de la métaphysique, c'est-à-dire à nous montrer que, ou à, d'une certaine manière, à convaincre les hommes que ce qu'ils ont perdu était nécessairement destiné à disparaître, qu'il faut donc nous réconcilier avec un réel qui est un réel qui pourtant, ou une effectivité qui pourtant ne nous satisfait pas, eh bien il me semble que la philosophie, si elle ne console pas, a néanmoins, elle, à penser la consolation, c'est-à-dire à penser tout de même ce qui fait que il y a quelque chose dans le chagrin, dans la tristesse, dans la perte, qui résiste à tous ces discours de la réconciliation, à l'emphase sur le travail de deuil, dans lequel d'ailleurs j'entends beaucoup plus le travail que le deuil, c'est-à-dire l'idée que il y aurait toute une série de techniques devraient impérativement être mises en place pour que le deuil se fasse rapidement, vite, de manière à retrouver toute sa productivité, son capital affectif ou son capital social d'ailleurs. Et je me méfie tout aussi bien de l'impératif de résilience dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que ça me semble être une manière de contourner ce qu'il y a d'événements dans la perte, ce qui fait qu'une perte, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit même politique, la consolation a une dimension aussi politique, la perte d'un idéal par exemple, l'idéal de justice, l'idéal d'émancipation, ce qui fait que la perte, bien sûr, il ne s'agit pas de s'y accrocher mélancoliquement, Mais le fait de s'en plaindre et le fait d'exiger, ou en tout cas de manifester un besoin de consolation par rapport à elle, c'est aussi une manière de la thématiser, de l'aborder, cette perte, comme une injustice, comme quelque chose dont nous sommes privés, et par conséquent, même si nous ne reviendrons pas en deçà de la perte, un amour terminé est terminé, si je puis dire, encore qu'il y a d'ailleurs beaucoup et c'est ce qui fait aussi le charme de l'existence humaine, il y a parfois tout de même des reprises, contrairement à ce que disait Kierkegaard, même dans le champ amoureux, mais de la même manière, nous ne reviendrons peut-être pas, sans doute pas, aux ordres anciens, politiques, communautaires, nationaux. Il faudrait d'ailleurs certainement éviter de chercher à croire que l'on y reviendra, mais par contre, la forme dont ces ordres anciens, ou la manière dont ces ordres anciens répondaient à une certaine attente en matière éthique, en matière affective, voire en matière politique, cette manière-là ne doit pas, à mon sens, être simplement liquidée au profit du fameux principe de réalité duquel nous devrions, ou auquel plutôt nous devrions en permanence nous adapter.
Mais on peut quand même constater qu'aujourd'hui, le malentendu principal concernant la philosophie consiste à se tourner vers elle pour justement y trouver une forme de consolation qu'elle ne vise pas du tout à apporter. C'est la confusion, cette fois-ci, non pas entre philosophie et religion, mais entre philosophie et psychologie.
Oui, ou philosophie et spiritualité. C'est-à-dire cette idée que nous pourrions être heureux avec Spinoza, ou retrouver la voie de la consolation ou du deuil par grâce à Socrate, ou que sais-je.
Alors la philosophie ne se présente jamais comme un art de mieux vivre.
La philosophie moderne, en tous les cas, mais déjà en un sens c'est vrai antique, ne se présente pas comme un art de mieux vivre. Alors il faut évidemment distinguer les choses. Il y a un phénomène, je dirais, de mode, ou plus ou moins commercial, disons-le, dans ses promesses de la philosophie comme salut. Bon. Mais en même temps, je ne voudrais pas les condamner non plus univoquement, parce que il y a tout de même cette idée que la vérité, que le savoir, en tout cas, si ce n'est pas la vérité scientifique, évidemment, que le savoir peut agir parfois comme un baume. Alors, encore une fois, cette idée ou cette conception que Foucault, par exemple, a beaucoup étudiée chez les anciens, selon laquelle la vérité, c'est une manière, à condition qu'elle soit bien intériorisée, bien acquise, bien subjectivée, comme le disait Foucault, c'est une manière de se prémunir contre les événements. Évidemment, elle est très affaiblie dans la modernité, mais je ne crois pas pour autant que l'on puisse liquider, si vous voulez, le besoin de consolation. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement les moyens de consolation qui sont divers, qui font appel à de l'inventivité humaine. Hein. Le consolateur, même de manière là très empirique, il est amené à devoir trouver le bon geste, à devoir trouver la bonne parole, et bien souvent, d'ailleurs, on échoue. Ce n'est pas tellement l'acte de consoler qui reçoit des règles, ou qui, à mon avis, est philosophiquement intéressant, que le besoin de consolation. Car le besoin de consolation, c'est, à mon sens, la première forme, la forme quasiment enfantine, car c'est l'enfant quand même qui a besoin d'abord de consolation, c'est la première forme du sentiment d'injustice. C'est-à-dire que, bien sûr, la consolation va viser à essayer de ramener un petit peu d'ordre là où il n'y a que du désordre, du scandale, un petit peu d'acceptation, d'acceptabilité, de résilience, comme on dit, de manière, à mon avis, tout très discutable, là où il y a d'abord de l'indignation. Mais néanmoins, le besoin de consolation, c'est aussi l'affirmation de ce que une douleur n'est pas humainement acceptable, ou qu'elle ne coïncide pas. C'est pas simplement que je souffre, car les animaux aussi souffrent. Et la souffrance, elle ne demande pas la consolation. La souffrance, elle demande l'arrêt de sa propre vie, si je puis dire, ou de son propre état. Dans la souffrance qui demande à être consolée, il y a d'abord, je dirais, l'idée que cette souffrance est injuste ou incompatible avec ce qu'est une vie humaine. Le constat d'un scandale. Et le consolateur n'a pas pour but, pour moi, de dire « il n'y a pas de scandale », ça c'est le réconciliateur, si je puis dire, « il n'y a pas de scandale, ce que tu vis est tout à fait justifié ». Il a pour but d'essayer de requalifier ce scandale de manière à ce qu'il ne devienne pas l'occasion, je dirais, d'une pulsion de mort, de mélancolique, d'un arrêt de toute espèce d'espérance, et ça vaut aussi dans le domaine politique.
Sometimes in is tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I
Un grand merci à vous, Michael Fessel.
Merci à vous.
Venez nous parler de votre livre aujourd'hui, Le temps de la consolation. On a arpenté à peine la moitié de votre ouvrage, qui est extrêmement riche, très bien écrit, passionnant vraiment. Allez-y sans retenue, chers auditeurs. Le livre sort jeudi, je crois, en librairie.
Jeudi.
Vous pouvez le commander dès maintenant. Il est disponible aux éditions du Seuil.
We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you. We all need somebody to lean on.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Vous pouvez continuer à vous appuyer sur Bill Withers comme il le chante Lean on Me, ou bien rester à l'écoute, les deux sont compatibles d'ailleurs, car il est l'heure de retrouver Géraldine Mosnay-Savoie pour ses deux minutes papillon.
Je crois que la philosophie ne gagne pas à trop s'enfoncer dans le commentarisme ou l'historicisme. Évidemment, il faut entrer dans un auteur, le connaître, mais je crois que la vie intellectuelle et culturelle attend autre chose du philosophe qui pense les problèmes de son temps.
Pour sûr, le philosophe François Dagonier, qui nous a quittés ce dimanche à 91 ans, n'était ni un commentateur ni un historien. Il préférait aux commentaires qui confinent et aveuglent le philosophe dans un seul objet, l'attention aux problèmes de son temps, comme il le dit, la curiosité pour toutes sortes d'objets en bon matériologue tel qu'il aimait à se définir. Il y a donc les objets, quels qu'ils soient, jusqu'aux déchets et détritus, mais aussi la médecine et les pathologies, l'art contemporain, l'argent, l'écriture, tous les articles qu'on lit sur lui depuis hier ne cesse de souligner l'aspect inclassable de sa pensée, l'ambition encyclopédiste de son œuvre. Et pourtant, il y a un fil conducteur dans toute cette diversité, et bien c'est cette diversité elle-même.
Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? C'est un travail de synthèse. Pour qu'il y ait synthèse, il faut que tu rassembles les données les plus multiples, les plus hétérogènes, façon à trouver l'unité. Il faut aller au dehors plutôt que s'exercer à rester dans le dedans.
Sans hétérogénéité, pas de synthèse et donc pas de philosophie possible. Aller vers le dehors multiple pour saisir le dedans des objets, là était la méthode de François Dagonier. À l'image de cette démarche, tout son travail sur la peau, par exemple, cette surface qui en disait plus que la plongée dans l'anatomie des corps, mais aussi sa manière d'écrire petit à petit, comme l'oiseau fait son nid, disait-il, tendu vers le ciel des idées, mais les pieds ancrés dans la matière.
Merci pour cet hommage, Géraldine, et on renvoie à l'émission de ce vendredi où, exceptionnellement, nous avons reprogrammer l'émission initialement prévue pour consacrer une heure de temps au travail donc de François Dagonier. Merci Géraldine, merci à Michael Fessel qui est encore avec nous en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la consolation. Ce sera le philosophe Michel Guérin qui viendra vous parler de la consolation chez Schopenhauer et Nietzsche à partir notamment de leur conception que l'un et l'autre se font de l'art. D'ici là, si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la podcaster, la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et nous vous donnons également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.